Merci d'écouter France Inter, il est 18h17.
This is Radio Free.
Minutos en Colombia.
France Inter, le 18-20.
Le 18-20 ce soir en Israël, en Australie, en Allemagne, ce sera ailleurs dans le monde, le journal de l'international de Michael Thébault. Direction Broadway pour le spectacle qui donne Philippe Découfflé, Laurent Vallière nous dira tout. À 18h55, c'est l'édito d'Arnaud Le Parmentier du quotidien Le Monde, chronique mondaine et américaine. Ce soir, tout ce qu'il faut penser de la présidentielle aux États-Unis. Tout de suite, le Maroc.
Nicolas Demorand, un jour dans le monde.
Roi du Maroc, le règne secret, c'est le titre du documentaire que diffusera demain soir France 3, consacré au roi Mohamed VI, son usage du pouvoir, sa discrétion, son emprise économique sur le royaume. De tout cela, on parle ce soir avec Jean-Louis Pérez. Bonsoir.
Bonsoir Nicolas Demorand.
Vous êtes l'auteur de ce film et Aboubakr Jamaï. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être au micro de France Inter, ancien journaliste marocain. Vous étiez membre de la rédaction du journal Hebdo. Vous vivez aujourd'hui en France, au Maroc, entre les
en
deux
France, Aix-en-France.
En France, Aix-en-Provence, et vous n'êtes plus journaliste, vous êtes
Je suis enseignant.
Enseignant. Le règne de Mohamed VI, c'est l'histoire d'une déception, Jean-Louis Pérez.
Bah ça, mon voisin pourra en parler mieux que moi. Moi, ce que j'ai vu, oui, effectivement, il y a eu une déception parce que il y avait beaucoup d'attentes au début de ce règne. Il y a eu une ouverture, ou en tout cas une volonté affichée de montrer qu'il y avait une ouverture. Et puis effectivement, ça c'est avec à ce moment-là d'ailleurs un essor de la liberté de la presse qui avait peut-être commencé avant d'ailleurs à la fin du règne de Hassan II. En tout cas, il y a quelque chose qui s'est passé au tout début du règne de Mohamed VI et qui s'est transformé très vite en autre chose.
Alors qu'est-ce qui s'est passé à Aboubakr Jamaï au début du règne de Mohamed VI? C'est une véritable libéralisation du Maroc ou l'image d'une libéralisation du Maroc?
Écoutez, le journal dont j'étais cofondateur était considéré à un moment comme étant une espèce de parmi les journaux porte-drapeau de cette espèce de transition. Je vous dis cela pour vous dire que le journal a été fondé en novembre 97, c'est-à-dire que c'est un journal qui a opéré pendant 2 années sous Hassan II. Et donc je confirme ce que vient de dire Jean-Louis Pérez, à savoir qu'il y a eu une vraie ouverture, enfin une ouverture politique, vers la fin des années Hassan II. Et donc Mohamed VI a hérité d'une dynamique d'ouverture. Et votre question est très importante et je ne pense pas qu'on ait encore une réponse définitive, donc je peux spéculer. Je pense qu'il y a eu deux éléments, des éléments locaux, nationaux et internationaux. L'élément local, c'est que quelque part, Mohamed VI a été protégé par sa, j'allais dire, vulnérabilité. Les gens avaient peur que, après le règne ferme de quelqu'un comme Hassan II, le pays se délite. Parce que
et
justement,
puis la question est-il à la hauteur du job?
Exactement, tout à fait.
Vulgairement.
Ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de membres de la société civile, de la société politique, se sont dit, il ne faut pas trop mettre la pression sur ce jeune roi, d'autant plus qu'il est arrivé précédé d'une bonne réputation. Il faut bien le dire, c'est quelqu'un qui s'était investi justement dans le travail social et qui avait une bonne image auprès de la population. Le deuxième élément, c'est que, évidemment, comme dans tous les phénomènes de cour, les gens autour de lui, et donc les élites qui ont beaucoup profité du système autoritaire marocain, ont fini par lui mettre dans la tête que le peuple le voulait lui, que tous ses journaux, tous ses partis politiques, toutes ses associations, en fait, ne représentaient pas le peuple, qu'il voulait que lui, finalement, contrôle le pays. L'élément international, c'est bien évidemment en septembre 2001. Et ça, c'est ce qu'on appelle une source de rente géostratégique, c'est-à-dire du moment que ces régimes là, il n'a pas été le seul à en user et abuser, Ben Ali, Moubarak, etc. Ils se sont donc vendus, entre guillemets, à l'Occident, en disant, nous sommes votre protection contre le terrorisme, et vous devez donc fermer les yeux sur tout ce qui est torture, dépassement des droits de l'homme, etc.
Ça a été facile, Jean-Louis Pérez, de faire ce film?
Ah non, c'était extrêmement compliqué.
Expliquez-nous, racontez.
En fait, j'ai pu tourner que 3 jours au Maroc, j'avais prévu de tourner, d'y aller plusieurs fois, et puis, en fait, deux fois 7 jours, et puis je me suis fait très vite interpeller, arrêter, d'une façon assez violente d'ailleurs, par une quarantaine de policiers, carrément, avec une nuit en détention, ils ont confisqué mon passeport. Avant ça, j'avais été suivi pendant une journée et demie, c'était fait de façon ostensiblement visible, pour qu'on s'en aperçoive, c'était une manière de nous mettre la pression. Donc non, c'est très très compliqué de travailler sur le Maroc, et c'est très compliqué de travailler là-bas. Donc il a fallu faire ce documentaire autrement. J'ai pu rencontrer des gens comme Aboubakr Jamaï qui vivent en France, d'autres qui vivent en Espagne, aux États-Unis. faire venir des gens aussi du Maroc, envoyer des gens pour tourner des images, parce qu'un film, il faut aussi des images, c'est pas que du son, c'est pas de la radio. Ça a été extrêmement compliqué. On y est arrivé, ça a été très long. On a bouclé.
Et c'est pour quelle raison ? C'est parce que le cœur du film est consacré à la fortune du roi du Maroc ?
Bah, au départ, moi, je voulais parler d'économie et de l'emprise, effectivement, des entreprises royales. C'est une structure très particulière où on a un roi qui est aussi le principal acteur économique du pays. J'ai trouvé que c'était un sujet intéressant. On est parti sur cet angle-là, strictement économique. Et puis effectivement, quand vous faites renvoyer...
Qui est l'angle atomique au Maroc.
Qui est l'angle atomique au Maroc, mais en même temps, quand vous faites renvoyer, vous pouvez pas ne pas parler du droit de la presse. Puis j'ai rencontré des journalistes qui avaient aussi eu des difficultés, voire enfin d'énormes difficultés. Ils le racontent dans le film, la séquence est hyper forte, parce qu'ils ont pas pu travailler, ils ont été personnellement harcelés. Et puis il y a un problème de corruption au Maroc. Donc voilà, l'enquête a suivi son cours et je suis arrivé au film que j'ai fait, c'est-à-dire qu'il parle d'un peu de plusieurs sujets qui n'est pas que sur l'économie, bien que la partie économique, comme vous le disiez, était quand même importante.
Expliquez-nous le marzen, le cœur même, le concept même du pouvoir marocain, Boubacar Jamaï.
Ben, imaginez que c'est un peu comme un western tourné dans les environs d'Almeria et vous avez donc ces devantures de bar, etc. Mais en fait, ce sont de faux décors. C'est votre parlement, c'est votre gouvernement, etc. En fait, la vraie structure, c'est le marzen. C'est le vrai détenteur du pouvoir.
Le mot donc, qui a donné magasin, dit l'étymologie.
Absolument. Donc, c'est lié à l'État.
L'État et l'économie, c'est main dans la main.
Absolument. L'aspect fiscal est très important. Et puis, pour être un peu pontifiant, c'est la définition de Weber. C'est le monopole de la violence légitime. Et ça, c'est toujours le roi qui l'a eu, c'est toujours la monarchie qui l'a eu, plus l'aspect, évidemment, fiscal de collecte et de contrôle des ressources. Donc l'origine vient de là.
Et quelle forme a pris ce type très particulier de gouvernement sous Mohamed VI ?
Mais écoutez, c'est quelque part revenu en force, parce qu'encore une fois, vers la fin des années Hassan II, on a senti une vraie ouverture politique, je ne dirais pas démocratisation, mais l'espace public s'est élargi, ceux qui n'avaient pas de voix ont été acceptés dans l'agora, dans l'espace public. Et puis après, ce qu'on a eu, c'est que par exemple, sur l'histoire des affaires, il y a deux raisons principales qui font que le sujet qui a été choisi par Jean-Louis Pérez est très problématique, et c'est la raison d'ailleurs qui a fait que mon journal a été interdit, parce que nous
Vous
avons enquêté
là-dessus.
Absolument là-dessus. Deux raisons principales, c'est que l'hégémonisme économique de la monarchie a véritablement atteint son apogée sous Mohamed VI et non pas sous Hassan II, ce qui surprend beaucoup de gens. Et ça, on peut. Mohamed VI, c'est le premier banquier du pays, Hassan II ne l'était pas. Mohamed VI, c'est le premier assureur du pays, Hassan II ne l'était pas, etc., etc. La deuxième raison, c'est qu'en termes d'arguments vis-à-vis du peuple, lorsque vous promouvez les institutions démocratiques, les droits de l'homme, parfois ça reste un peu vaseux, c'est pas très clair. Mais lorsque vous dites aux gens, le monsieur qui vous dirige, en fait, il prend votre argent et voilà comment il le prend, là, vous avez un argument qui porte au sein de la population. Et d'ailleurs, durant les manifestations du printemps arabe portées par ce mouvement qui est connu sous le nom du 20 février, la plupart des banderoles parlaient justement de cette pieuvre qui est l'entreprise du roi, Ona, etc. C'est dire que ce genre de sujet a beaucoup de résonance au sein de la population et donc fait peur aux tenants du régime.
Vous avez pu enquêter sur cette fameuse entreprise pieuvre, Jean-Louis Pérez ?
On a enquêté sur la place des entreprises qui sont au sein de l'entreprise pieuvre. Vous avez tout simplement un acteur, le troisième acteur en téléphonie mobile qui est la possession de la holding royale. Il y a un tas d'entreprises qui sont dans la holding royale, qui sont leaders sur le marché. Vous avez d'autres entreprises qui appartiennent qui ne sont pas dans la holding royale, mais qui sont quand même des entreprises royales. Je pense aux entreprises qui, concernant le secteur de l'agriculture. Les entreprises royales sont le principal acteur de ce secteur au Maroc. Et comme par hasard, c'est un secteur qui est exonéré d'impôts. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Donc il y a des conflits d'intérêts. Comment quelqu'un qui peut être à la fois le commandeur des croyants, le principal acteur politique du pays, et en même temps le premier acteur économique. Vous voyez, c'est tout simple. Il suffit de constater ça et de se dire que quand même, il y a un tout petit problème. Et puis, le problème, c'est que le Maroc, c'est un pays pauvre. Parce que le roi s'enrichisse, pourquoi pas, hein, ça dérange personne. Après, vous avez un pays, quoique je vois Boubacar qui hoche la tête, mais vous avez 20% de la population qui vit avec moins de 2 euros par jour. Vous avez un taux d'analphabétisation qui est énorme. Bon, voilà, donc vous voyez, il y a ce rapport qui, voilà, c'était normal de m'y intéresser en tant que journaliste.
Comment expliquer que ce rapport-là à l'argent, ce rapport-là au bien public changer à ce point d'échelle par rapport à Hassan II ?
Écoutez, d'abord, ce n'est pas un phénomène marocain. C'est un phénomène, d'ailleurs je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais dans la plupart des manifestations durant le printemps arabe, que ce soit en Égypte, en Tunisie, au Maroc et même en Syrie, beaucoup de demandes portaient sur le fait que les mafias, que les familles régnantes étaient des mafias régnantes, d'un point de vue économique.
Et les prébendiers, oui.
Absolument. Et il y a une raison pour cela, c'est que jusqu'aux années 80, les élites au pouvoir dominaient l'économie à travers l'État. Parce que l'État pouvait se le permettre pour un certain nombre de raisons. Puis il y a eu la crise des années 80 qui a fait que les éléments, donc les entreprises d'État étaient affaiblies parce que le budget de l'État ne permettait plus donc d'acheter la paix sociale à travers, en embauchant les gens, en contrôlant donc l'économie, en embauchant le fils du syndicaliste dans l'entreprise publique, etc. Ces familles régnantes, ces groupes régnants se sont portés vers le secteur privé. Et donc ils ont été chassés par la porte de l'économie, donc par de l'État, et ils sont revenus par la fenêtre du secteur privé en contrôlant le secteur privé. Et une petite parenthèse ici pour dire, c'est là où véritablement les institutions financières internationales n'ont pas été à la hauteur, parce que au lieu de dénoncer cette mafiasisation de nos économies, pas seulement d'ailleurs au Maroc, elles ont toutes chanté les louanges de cette ouverture au marché, etc. Or, ce n'était pas une ouverture au marché, ce n'était pas l'économie de marché, c'était une économie qui devenait de plus en plus mafieuse.
Oui, je veux juste ajouter, Pérez, parce que c'est par rapport à son père Hassan II, Mohamed VI, un roi qui est dans son époque. Aujourd'hui, l'argent a beaucoup plus, c'est beaucoup plus une valeur référence de la société d'aujourd'hui qu'elle ne l'était dans les années 90 et puis à l'époque de Hassan II. C'est un homme d'affaires avant d'être un... Alors, il y a l'aspect mafia qui est souligné peut-être par... mais il faut faire attention, il faut être prudent au terme qu'on emploie. Mais c'est aussi un roi du 21e siècle avec cette valeur référence qui est l'argent. Mmh. Toujours plus d'argent, l'argent. Voilà, c'est aussi ça.
Quand vous parlez de mafia, vous parlez de quoi ? Des plus proches conseillers, collaborateurs du roi du Maroc ?
Jean-Luc Pérez a raison. Il faut faire attention au terme. Ce qu'on entend, c'est la définition même de la corruption. C'est-à-dire que vous avez des prérogatives politiques et vous les monétisez, tout simplement. C'est-à-dire que vous, grâce à ces prérogatives politiques que vous donne la Constitution, et le roi, jusqu'à aujourd'hui, et même avec la réforme constitutionnelle de 2011, reste l'acteur le plus important, central au Maroc. Et si vous êtes en même temps le premier homme d'affaires du pays, il est inenvisageable que vous ne bénéficiez pas de votre centralité politique financièrement, voyez. Et ça c'est la corruption même. La corruption, c'est une prérogative publique qui est utilisée pour s'enrichir. Donc voilà, c'est quand on parle de mafia, on parle de cela en particulier.
Quelles sont les voies de réforme du royaume et de ce système si particulier de construction du pouvoir politique et économique, au fond, dans les mains d'un seul et même homme, le roi?
Je vais être très simple, voire même un peu simpliste. Il y a deux façons. Il y a la façon qu'on avait espéré se faire au Maroc, qui date donc de la fin des années 90 sous Hassan II, qui était celle d'une monarchie qui, à un moment, comprend, non pas parce qu'elle est devenue démocrate, mais qu'elle comprend que la préservation de l'institution passe par une ouverture graduelle, etc., et qui ouvre l'espace et donc peut mener vers une démocratisation. Ça, c'est une dynamique. L'autre dynamique, c'est ce qui s'est passé en Tunisie, c'est ce qui s'est passé en Égypte avec des allers-retours, etc. Évidemment, on aurait espéré que ce soit par la réforme que cela se passe. Sauf que la réforme, et c'est là où ce film est très important. J'espère qu'il va déceler pas mal de gens qui sont encore sous l'illusion que le Maroc est véritablement sur la voie de l'ouverture. C'est que cette dynamique d'ouverture se fait sous la pression pacifique de la société civile. Je voudrais juste indiquer un point très important. Lorsqu'il y a eu le printemps arabe au Maroc, pendant des week-ends, des mois, des week-ends, des dizaines de milliers de Marocains sont descendus dans la rue pour manifester. Il n'y a pratiquement pas eu une seule vitre de cassée. C'est-à-dire que nous avons une population qui a manifesté pour une ouverture démocratique de façon tout à fait pacifique. Et malheureusement, la réponse de nos élites n'a pas été à la hauteur. Et j'ai peur que l'histoire repasse les plats, mais qu'il soit beaucoup plus épicé et beaucoup plus chaud. Juste pour terminer, pourquoi l'histoire de la presse est... Vous savez, la presse, c'est l'agora moderne. Si vous ne permettez pas aux groupes de pression, entre guillemets, aux associations des droits de l'homme, de s'exprimer et de faire pression de façon pacifique, et c'est exactement ce que malheureusement ont fait les élites au pouvoir, je dis les élites parce qu'il n'y a pas que la monarchie, il y a la monarchie et ce qui l'entoure, eh bien, ils obèrent, ils enlèvent à la société marocaine la possibilité de faire pression pacifiquement. Qu'est-ce qui reste ? Il reste la violence.
Les voies de la réforme, Jean-Louis Pérez, le prince rouge, le prince vert, il passe par toutes les couleurs, le cousin du roi, qu'est-ce qu'il vous dit ?
Lui, ses convictions se trouvent dans une monarchie parlementaire. C'est le régime qu'il défend, voilà, c'est ce qu'il explique dans le film. Donc c'est une possibilité. Vous trouverez très peu de gens au Maroc qui veulent voir la disparition de la monarchie. C'est un symbole. Les Marocains la respectent. Et d'ailleurs, pourquoi ? Enfin, moi, j'ai aucune. Je suis personne pour dire qu'il faut abolir la monarchie. Mais il y a aucune raison, du point de vue marocain, si vous écoutez la majorité des gens, de supprimer cette institution. Après, il faut aller quand même vers des régimes un peu plus modernes. Comment ne pas être pour la démocratie ? Voilà. Donc le prince Moulay Hicham, puisque c'est de lui, c'est lui le cousin du roi, ouais. dont vous parlez, défend ce régime, enfin cette évolution. Il n'est pas le seul, beaucoup de journalistes sont dans cette perspective-là aussi.
Moulay Hicham avait publié un livre il y a quelques années, très intéressant justement sur les voies et moyens de la réforme du Marzen. Compliqué, hein. Le livre était épais, passionnant, mais compliqué.
Je ne partage pas votre évaluation de son livre, parce que je l'ai trouvé très décevant, mais enfin bon...
C'était intéressant à lire.
Nicolas Demorand, vous rentrez dans des problèmes maroco-marocains.
Je m'arrête là.
Vous pouvez y aller si vous voulez. Moi, j'ai trouvé ça passionnant.
Je pense que c'est très bien qu'il y ait des gens au sein de la famille royale qui parlent aussi ouvertement d'une véritable démocratisation et qui nomment les choses en parlant de monarchie parlementaire, et je pense
que... Il mettait les mots sur les choses, là. Hein.
Là encore, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails, mais croyez-moi que c'est un livre qui recèle pas mal de problèmes. Moi, ce qui me dérange un petit peu, mais encore une fois, il a sa liberté de parole, c'est que tout de suite, lorsque vous avez quelqu'un d'aussi, qui je crois, troisième dans l'ordre de succession, vous retrouvez dans des problématiques à la limite, isnogoudienne. Je ne suis pas en train de dire que lui veut être roi à la place du roi, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais que, ça, quelque part, ça risque d'obscurcir le débat, parce que le vrai débat n'est pas qui est le roi. Le vrai débat, c'est les institutions doivent changer. On devrait être dans une situation où, à la limite, on se fiche de qui est le roi. Mmh. Parce que nous avons des institutions qui préservent les droits des Marocains.
Est-ce que vous lui reconnaissez des qualités à Mohamed VI après 99-2016, près de 17 ans de règne ?
Écoutez, le grand débat par rapport à Mohamed VI, c'est très franchement, moi je ne l'ai jamais rencontré, je ne le connais pas en personne, mais beaucoup de ceux qui l'ont vu et qui m'en ont parlé m'en disent du bien d'un point de vue personnel. Mais à la limite, n'allez pas la question. Je ne sais pas.
Oui, vous l'avez dit à l'instant.
Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Mm-hmm. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc vous jugez la performance d'un dirigeant sur ses politiques, pas sur le fait qu'il apparaît gentil, qu'il distribue de... À quoi ça sert de distribuer de la soupe si par ailleurs, mm-hmm. à travers vos entreprises, vous vous voyez ce que je veux dire.
Et sa gestion de l'islam politique ?
Alors là aussi, c'est un débat très intéressant. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous parlez de la Tunisie, l'une des plus grandes avancées de la Tunisie, c'est qu'ils ont inscrit dans la Constitution la liberté de conscience. Ça, véritablement, c'est un point d'inflexion dans le constitutionnalisme dans nos pays. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la monarchie qui s'est opposée à la liberté de conscience au Maroc. Et la raison pour laquelle c'est la monarchie qui s'est opposée à la liberté de conscience, parce que la liberté de conscience casse le lien de légitimité de la commanderie des croyants. Mmh. Si vous êtes commandeur des croyants et que je vous dis le croyant peut demain matin ne plus être croyant, vous n'êtes plus commandeur de cette personne. Vous voyez ce que je veux dire.
On n'est plus commandeur des croyants et on n'est peut-être pas commandeur des citoyens. Hein.
Ouais. Et l'ironie de l'histoire, c'est que les deux formations majeures islamistes au Maroc sont en faveur de la liberté de conscience. Donc voilà un cas où la monarchie, en fait, est rétrograde en termes de liberté et de liberté de conscience en particulier. La deuxième chose, et ce n'est pas une spécificité marocaine, vous savez, les régimes autoritaires, ils ont un cerveau reptilien qui est très développé. C'est la survie. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, s'il faut fricoter avec le diable, il fricote avec le diable. Hezb Nour, en Égypte, a prospéré parce que Moubarak a voulu qu'il prospère, contrairement aux frères musulmans qui avaient des demandes politiques. Vous voyez ? Au Maroc, on est un peu dans la même configuration. Nous avons des salafistes aux idées les plus obscurantistes possibles, qui sont très proches de la monarchie, qui sont les meilleurs soutiens de la monarchie. Et nous avons des islamistes qui ont des idées sociétales très libérales, voire même libertaires dans certaines conditions, et qui, eux, sont interdits et considérés comme étant des radicaux.
Jean-Louis Pérez.
J'ajoute juste que la lutte contre le terrorisme islamiste, du point de vue français, est très importante. Ça, on le sait. Et qu'aujourd'hui, le roi du Maroc a une place affichée dans la lutte contre le terrorisme en France. Et la grande question concernant le Maroc, c'est peut-on tout légitimer au nom de la lutte contre le terrorisme ? C'est une vraie question. C'est-à-dire que oui, les terroristes, il faut lutter contre le terrorisme. Mais est-ce qu'on peut fermer les yeux sur un certain nombre de problèmes, type les droits de l'homme, les droits de la presse, sur les problèmes économiques qu'on vient d'évoquer au nom de la lutte contre le terrorisme? C'est une question difficile, j'ai pas forcément la réponse. Enfin, si, ma réponse c'est quand même on peut pas tout, on peut pas tout fermer les yeux sur tout, voilà.
Aboubakar Jamaï.
Al-Qaïda au Maghreb islamique avait publié une vidéo il y a 2 ou 3 ans. la vidéo portait essentiellement sur les affaires du roi. Elle ne portait pas sur l'aspect islamique, l'application de la charia, etc. Parce qu'ils savent que ce sont des messages qui portent. En d'autres termes, lorsque vous voulez vous poser comme étant le réformateur de l'islam, vous devenez inaudible si par ailleurs vous n'êtes pas éthique dans votre comportement. Mmh. Et au contraire, ça affaiblit votre position de moderniste. C'est-à-dire que les gens... certains commencent à associer les libertés publiques, etc., etc., en fait, avec la mafia, avec cette espèce de consumérisme, de richesse mal acquise, etc.
Merci à tous les deux, Jean-Louis Pérez, roi du Maroc, le règne secret, titre de votre film diffusé demain soir, jeudi 26 mai à 23h25 sur France 3. Merci à Aboubakr Djamaï, ancien journaliste marocain, aujourd'hui enseignant, d'avoir été au micro de France Inter. Je rappelle que vous vivez en exil en France. À suivre, 18h37, ailleurs dans le monde, Rokia Traoré, d'ici là. For Lydia, niele oh niele, niele don folie. Rokia Traoré sur Inter.
Sete horas, quatro minutos.
BBC's Brian Hanrahan.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Thanks so much for that report.
Ailleurs dans le monde, bonsoir Michael Thébault.
Bonsoir Nicolas.
Pour commencer, direction Israël où la coalition du Premier ministre élargit son aile radicale.
Ah oui, c'est vraiment un euphémisme puisque Benjamin Netanyahou vient en effet d'annoncer un accord avec le parti ultranationaliste Avigdor Lieberman, un vétéran de la politique israélienne, connu entre autres pour ses diatribes anti-arabes, partisan de la peine de mort pour les auteurs d'attentats, partisan d'une scission totale entre Israéliens et palestiniens, et c'est donc lui qui va récupérer le ministère ultra-sensible de la Défense en charge de l'administration des territoires palestiniens occupés, une union des droites dures israéliennes qui inquiète évidemment les partisans du dialogue et crée déjà un début de crise politique au sein même du Likoud. Bonsoir Étienne Monin en direct de Jérusalem.
Bonsoir Michael.
Alors d'abord Étienne, expliquez-nous qui est Avigdor Lieberman.
Eh bien, c'est un chiffon rouge en Israël, un populiste à la voix forte qui gère les intérêts de la communauté russophone et des électeurs démunis, mais qui a la réputation d'être plus opportuniste qu'idéologue. Freddy Etan peut en parler, c'est un ancien journaliste directeur du Centre des Affaires Publiques et de l'État.
Avigdor Lieberman, d'abord, vit dans une implantation depuis toujours, a des idées intransigeantes concernant la solution du problème palestinien, mais c'est un pragmatique.
Voilà, le mot est lâché, hein, c'est un pragmatique. Est-ce pour cela, Étienne, que le Premier ministre l'appelle donc maintenant dans sa coalition ?
En fait, ce que cherche à obtenir Benjamin Netanyahou, en quelque sorte, avec cette opération, c'est plutôt une assurance-vie. Benjamin Netanyahou élargit avec cette union sa majorité à la Knesset en rajoutant 5 sièges. Il sécurise le prochain vote du budget qui s'étale sur 2 ans. Il tente de sortir du système clientéliste dans lequel il s'était enfermé, explique Emmanuel Navon, professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv, ancien membre du Likoud.
Le but unique de Netanyahou dans ce remaniement ministériel, c'est d'asseoir sa coalition qui est fragile, puisque c'était une coalition de 61 députés sur 120, donc une coalition rasoir, et une coalition qui était menacée en permanente, puisque quand on a uniquement 61 sur 120, on a besoin de tous les députés de la coalition. Et bien entendu, certains députés ont découvert ce pouvoir en faisant du chantage sans arrêt.
Et le chantage, hein, Lieberman aussi s'y connaît, en vieux routier de la politique et du pouvoir, Étienne, puisqu'il a déjà fait une longue route, hein, avec Benjamin Netanyahou.
Oui, c'est au fond une alliance naturelle. Avigdor Lieberman est un ancien du Likoud. Il est entré dans l'appareil d'État avec Benjamin Netanyahou il y a 20 ans. Il a été son ministre des Affaires étrangères, mais au ministère de la Défense, le poste donc qui lui est promis, il aura en main, vous le disiez tout à l'heure, la gestion des territoires occupés, la gestion des tensions et celle des colonies, alors que le moment est sensible, estime le politologue Denis Charbit.
On est dans une situation fragile. Depuis octobre, il y a cette fameuse intifada des couteaux, alors certes qui semble avoir été jugulée au moment où la coopération israélo-palestinienne fonctionne. Mettre maintenant Lieberman, ça apparaît comme un acte suicidaire pour les intérêts même de l'État d'Israël. Alors, même si on peut imaginer qu'Avigdor Lieberman va mettre un peu dans son vin, dans cette heure-là où diplomatiquement les choses, si elles ne bougent pas, en tout cas on veut les faire bouger, ça apparaît être une sorte de gouvernement crispé, replié sur lui-même. C'est autant l'action militaire qui est aujourd'hui dans une situation, je dirais, d'inquiétude, que les Palestiniens ou la diplomatie internationale, compte tenu du discours de Lieberman jusqu'à aujourd'hui.
Et cette nomination révèle aussi une lente dérive du Likoud, le parti dominant du Premier ministre. La formation politique sort divisée de cette opération, avec d'un côté le camp nationaliste au pouvoir et de l'autre une droite qui se veut fidèle aux origines, qui défend l'éthique, la morale, le respect des institutions. Emmanuel Navon connaît bien le fonctionnement de ce parti.
Il y a là un réveil au sein d'une grande partie de la droite israélienne, de toute la tradition libérale et conservatrice de la droite israélienne, qui se sent aujourd'hui complètement mise à l'écart par, je dirais, la branche plus nationale religieuse, qui historiquement a son propre parti, mais qui, avec le temps, a également pris le contrôle du Likoud. Le Likoud, qui, je vous le rappelle, était à l'origine un parti de droite laïque libérale, mais qui ressemble de moins en moins à ce qu'il était à l'origine.
Et cette arrivée d'Avigdor Lieberman tombe alors que le processus de paix refait parler de lui. Elle est dénoncée par les Palestiniens et elle contredit le discours rassurant de Benjamin Netanyahou qui a répété que sa coalition continuerait à faire tout son possible pour le processus diplomatique bloqué maintenant depuis 2 ans, depuis le désengagement de la diplomatie américaine.
Allez, de nombreuses personnalités politiques israéliennes ont déjà fait part de leurs gros doutes. Merci Étienne Monin en direct de Jérusalem.
Direction maintenant, Michael, l'Australie et plus précisément l'État de Victoria.
Oui, à la pointe sud-est du pays, le plus petit État continental australien, mais aussi le plus urbanisé, avec Melbourne, bien sûr, pour capitale. Et l'État de Victoria est entré dans l'histoire australienne hier par un acte public de contrition. Le Premier ministre local, Daniel Andrews, a en effet présenté ses excuses formelles pour des lois historiques qualifiées de honteuse. Alors, quelles sont ces lois? Un indice, une heure avant son discours, un drapeau arc-en-ciel avait été hissé devant le Parlement. Extrait du discours de Daniel Andrews.
Cette loi ne punissait pas seulement l'acte homosexuel, elle punissait les pensées homosexuelles. Et pour ça, elle n'a plus sa place aujourd'hui. Au nom du peuple de Victoria, pour les lois que nous avons adoptées, pour les vies que nous avons ruinées, pour les normes que nous avons établies, nous sommes désolés, profondément, humblement désolés.
Et bien voilà, c'est dit, excuse officielle du Premier ministre pour cette loi qui jusqu'en 1981 jetait les homosexuels en prison, jusqu'à 15 ans de réclusion pour quiconque était reconnu coupable, je cite, de sodomie ou d'indécence. Plusieurs milliers de personnes concernées de 1950 à 1981. Nous sommes tous égaux, a conclu le chef du gouvernement de l'État de Victoria, en invitant même les LGBT, et je cite toujours, à ne jamais plus hésiter à manifester publiquement et avec fierté leur affection ou leur amour.
Et l'on reparle maintenant de la crise laitière, pas en France, mais vue d'Allemagne.
Oui, on en parle peu, hein, souvent convaincu à tort que seuls les producteurs hexagonaux sont touchés. Mais c'est aussi le cas de leurs confrères allemands, et pas seulement. Les Scandinaves, Danois notamment, sont également frappés. La crise laitière en Europe était d'ailleurs au menu d'une réunion au sommet, aujourd'hui à Bruxelles, avec tous les acteurs de la filière. Un enjeu, la surproduction européenne qui tire mécaniquement les prix vers le bas, et met donc en danger des milliers d'agriculteurs. Alors, illustration ce soir chez le premier producteur de lait en Europe, l'Allemagne. Reportage dans une ferme du Brandebourg, signé Cyril Sauvageau.
Combien de temps encore pourra-t-il tenir? Frank Spitzer, producteur laitier dans le Brandebourg, se pose la question en regardant dégringoler le cours du lait. La situation est devenue intenable pour son exploitation de 250 bêtes qui produit chaque jour 6500 litres de lait.
En ce moment, on nous donne 18 centimes le litre alors qu'il en faudrait 40 pour s'en sortir. Vous savez, l'an passé, on avait eu 300 000 euros de pertes et la prévision pour l'année en cours, là, elle est plutôt aux alentours de 400 000 euros. Et puis nos activités annexes, comme la production de biogaz ou l'agriculture, ça ne suffit plus à compenser ces pertes. On est à la limite. Notre survie est en jeu aujourd'hui. Et si les choses ne s'améliorent pas très vite, on va devoir arrêter de produire du lait, comme d'autres l'ont déjà fait dans la région.
Dans un rayon de 30 km autour d'ici, explique Franck, 10 producteurs ont mis la clé sous la porte en un an et demi. À terme, seules les plus grosses exploitations pourront tenir, les mieux armées face à la guerre des prix particulièrement féroce en Allemagne. Ralf Müller est conseiller agricole spécialiste de la filière lait.
Avec le phénomène de concentration que l'on observe dans la grande distribution, les laiteries se retrouvent sous pression. Mais ça ne peut pas durer comme ça pour les producteurs. On voit bien que les laiteries continuent malgré tout à prendre leur marge. La grande distribution aussi, en mettant davantage la pression sur les prix. Et à l'arrivée, ce sont les agriculteurs et eux seuls qui paient les pots cassés.
Les producteurs réclament d'urgence le soutien des pouvoirs publics. Le ministre de l'Agriculture a convoqué un sommet du lait lundi prochain à Berlin. Il pourrait annoncer un plan d'aide de 200 millions d'euros.
Cyril Sauvageau, plan d'aide, mais en aucun cas, prévient aussi le ministre, un retour aux quotas de production qui ont, vous le savez, été la norme en Europe pendant près de 30 ans avant leur suppression l'an dernier. À demain, Nicolas.
À demain, Michael.
Un jour dans le monde. Nicolas Demorand sur France Inter.
18h50 et ce soir, ça passe ou ça casse pour la première incursion à Broadway du danseur, chorégraphe et metteur en scène français Philippe Découfflé. Il dirige sa première comédie musicale dans la Mecque du genre. Par amour ouvre officiellement ce soir. C'est une production du Cirque du Soleil, la multinationale née au Québec qui a révolutionné le cirque et qui règne à Las Vegas avec 7 spectacles différents tous les jours. C'est la première fois que le Cirque du Soleil tente sa chance à Broadway avec un spectacle qui suit donc les codes de la comédie musicale et c'est à Philippe Découfflet, qui avait déjà travaillé pour eux à Hollywood, à Vegas, qu'ils ont confié la direction du spectacle. Laurent Vallière a rencontré Découfflet à New York durant les répétitions de Paramore.
Ladies and gentlemen, welcome to Cirque du Soleil Paramore, avec mon accent français qui a l'air d'avoir un certain charme.
Chaque soir, c'est Philippe Découfflet qui accueille les spectateurs de Paramour dans la gigantesque salle du Lyric Theatre. Une salle décorée à la française avec un rideau qui copie la fresque art déco de la façade des Folies Bergères à Paris. À quelques jours de la première, tout peut encore changer.
C'est la technique d'un trampoliniste. Quand on lui dit « retourne à ta place », il fait « boing, 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 boing » en traversant le plateau comme un kangourou. On est en train de travailler sur la fin du spectacle. On est sur les toits de New York. C'est une quinzaine de trampolinistes d'extrêmement haut niveau qui rebondissent dans tous les sens. Et donc c'est particulièrement pointu, dangereux et délicat. Oui, on est encore en preview. C'est l'avantage de ce mois de preview, c'est que tous les jours on améliore le spectacle, on change des choses. Donc là, il y a des paroles de chansons qui changent, il y a des textes qui changent. Ce soir, on rajoute une danse à la fin. Et on fait un changement de mise en scène important sur la fin du spectacle.
Paramour est une vraie comédie musicale, avec des chansons, des scènes jouées, des acrobaties, des danses. C'est la première fois que Philippe Découfflet met le pied à Broadway, et il y a des codes à suivre.
C'est-à-dire qu'il y a une histoire, et qu'on me rappelle tous les jours que tout doit être au service de l'histoire, donc c'est un triangle amoureux. Pas le droit de passer de musique enregistrée ici. Tout doit être joué en direct. Une autre spécificité de Broadway, c'est l'efficacité. Il se passe quelque chose de spectaculaire, que ce soit un effet de lumière, de costume, un effet visuel, une chanson ou je ne sais quoi, toutes les minutes. Je compare ça finalement, comme on a un public qui n'est pas très éduqué, c'est pas un public de culture, on s'adresse à un public très large, c'est vraiment comme quand on allume la télé aux États-Unis, il y a tout le temps des films de super-héros, et ben c'est ça.
Philippe Découfflet est directeur chorégraphe de Paramour. Il est épaulé par une chorégraphe chargée des acrobaties et d'un metteur en scène pour tout ce qui est parlé. Dans les coulisses aussi, ça ressemble à l'univers impitoyable de la télé.
Je me bats tous les jours pour garder un contrôle artistique important sur ce spectacle. Moi, ça me fait penser à ces films que j'ai vus gamin sur les comédies musicales où vous avez toujours le producteur qui est très important, qui est là, qui intervient tout le temps. Et ben, c'est ça. On a constamment des notes du producteur qui dit là, c'est pas lisible, là, pourquoi ? Il faut tout expliquer aussi. Moi qui ai plutôt l'habitude de travailler à l'instinct, ici, on peut pas trop travailler à l'instinct. Je dois intégrer des idées qui sont pas les miennes. C'est un travail collectif.
Après Las Vegas, le Cirque du Soleil veut à tout prix conquérir Broadway. Il a fait appel à Philippe Découfflet pour apporter un sang neuf et investit sur ce projet 25 millions de dollars. Une somme gigantesque dans un environnement brutal.
Par exemple, l'acteur principal a été renvoyé 10 jours avant la première. Donc oui, dans ce sens-là, c'est brutal. C'est-à-dire que quand quelque chose ne leur plaît pas, on ne négocie pas, on tourne la page. C'est la loi de Broadway, hein. On met en place un spectacle dans un théâtre, et si ça marche, ça peut rester à l'affiche des années, et si ça marche pas, au bout de 2 mois, ça s'arrête. J'ai cru comprendre que la critique du New York Times était absolument essentielle. C'est-à-dire que si on a une bonne critique dans le New York Times, c'est parti pour des années, si on en a une mauvaise, c'est fini. Et c'est fou, comme l'avis d'une personne et un article dans un journal peut déterminer la vie ou la mort d'une entreprise aussi folle.
La critique du New York Times, elle paraît demain.
Bonne chance à Philippe Découfflet à Broadway donc dès ce soir pour Paramour et merci Laurent Vallière.
France Inter, le 18-20. Un jour dans le monde.
18h55, l'édito d'Arnaud Le Parmentier du quotidien Le Monde. Bonsoir Arnaud.
Bonsoir Nicolas.
Chronique mondaine et états-unienne. Ce soir, vous avez rencontré, dîné avec Donald Green, professeur de sciences politiques à l'Université de Columbia.
D'abord, ce n'était pas mondain, c'était un dîner de travail, rattrapage, l'Amérique pour les nuls. Et il nous a effectivement rappelé 10 fondamentaux pour l'élection américaine, qui, on le sait, opposera Hillary Clinton à Donald Trump. Alors d'abord, pour les deux camps, les enjeux sont décisifs. Un, la nomination d'un juge à la Cour suprême après la mort du juge Scalia nommé par Reagan en 1986 est bloqué. Eh bien, son choix après la présidentielle fera basculer l'orientation du pouvoir suprême aux États-Unis. Actuellement, il y a 4 conservateurs et 4 progressistes à la Cour. À court terme, les démocrates sont très vulnérables. Ils n'ont pour l'instant la majorité ni au Sénat, ni à la Chambre, ni chez les gouverneurs d'État. Les républicains, eux, ont un problème plus long terme, répondre à la montée démographique de l'Amérique non blanche, bientôt minoritaire. C'est avec les hispaniques que Bush fils avait gagné, c'est avec les hispaniques que Trump pourrait perdre.
Voilà donc pour le contexte, Arnaud, maintenant les candidats.
Mais d'abord, tout le monde les connaît. 3% des électeurs seulement disent qu'ils n'ont pas d'opinion sur eux. Hillary est là depuis 20 ans, Trump aussi, mais dans les shows télévisés. Aucun nouveau venu n'a émergé, comme jadis Barack Obama, Bill Clinton. Et ils sont vieux, 68 ans pour Hillary, 69 ans pour Trump. Par le passé, seul Reagan a gagné des élections en étant âgé de 70 ans. Les deux, donc, ne pourraient faire qu'un mandat. Quatrième remarque de Donald Green, les deux ont des affaires judiciaires gênantes. Hillary Clinton pour avoir utilisé une boîte email non sécurisée quand elle était ministre des Affaires étrangères d'Obama. Trump pour des histoires de fraude dans son université. Et surtout, tout le monde les déteste. 57% d'opinion défavorable pour Trump, 49% pour Hillary, c'est très très élevé, Nicolas.
Bon, mais ils sont quand même différents l'un et l'autre.
Mais ils ont leurs spécificités. Clinton est la première femme candidate et la première first lady candidate, mais elle n'est pas aimée. Trump, lui, accumule les premières. Il est le premier candidat depuis un siècle à être vilipendé par son propre parti, même si celui-ci se met progressivement derrière lui. Depuis Eisenhower, aucun candidat n'avait aucune expérience politique du tout. Et encore, Eisenhower, lui, il avait prouvé sa capacité à diriger en organisant, souvenez-vous, le débarquement en Normandie. Trump est le premier à avoir fait des donations au parti adverse. Trump est le premier candidat à ne pas payer pour faire campagne. Il fait ça gratuitement grâce à nous. Et Trump est le premier à avoir divorcé deux fois. Voilà une campagne inédite.
Inédite donc, mais avec quel pronostic, Arnaud?
Donald Green, il est un petit peu comme les journalistes il y a quelques mois. Il parie quand même sur une victoire d'Hillary Clinton. Il se fie à PredictWise, qui rassemble les sites des parieurs et qui donnait mi-mai 71% de chance à Clinton. En réalité, beaucoup, beaucoup se jouera à la convention. Non pas républicaine, mais démocrate. Est-ce que Bernie Sanders, le sénateur du Vermont, l'homme qui se dit socialiste, divisera le parti ou appellera à se ranger derrière Hillary Clinton. Pour le moment, l'affaire tourne au pugilat. Bernie Sanders affirme qu'il se battra jusqu'au bout. Il prévoit une convention, citation, désordonnée. Clinton explique qu'elle doit se battre contre les deux candidats, Trump et Sanders. Et Trump, eh ben, il flaire le bon coup. Il s'apitoie sur Sanders, maltraité par le parti démocrate, et lui suggère de se présenter en indépendant. Mais oui, voilà qui lui garantirait la victoire, Nicolas.
Arnaud Le Parmentier, merci. Le téléphone sonne à 19h20 sur cette colère des prix Nobel français. Ayant appris que le budget de la recherche serait en baisse d'un peu moins de 200 millions d'euros, pas du tout, a répondu Najat Vallaud-Belkacem. On va essayer d'y voir plus clair tout à l'heure. Vos questions 01 45 24 7000, franceinter.fr et Twitter avec le mot-clé Telson.